Ce podcast a été enregistré le 8 novembre 2023 à l'occasion des rencontres stratégiques de la Méditerranée.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'énergie et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir Madame Annelise Théani. Bonjour.
Bonjour Sarah.
Directrice adjointe de la Direction des Affaires européennes, internationales et de la coopération à la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Vous êtes vice-présidente également du groupe des affaires institutionnelles de l'Association des régulateurs méditerranéens de l'énergie, MEDREG. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la Commission de régulation de l'énergie ?
Oui, merci Sarah. Et merci pour cette invitation. Je suis vraiment très contente d'être avec vous aujourd'hui et de répondre à vos questions. Donc, la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, comme vous l'avez dit, donc c'est peut-être comme ça que je m'exprimerai ensuite parce que ça ira un petit peu plus vite. Donc, la CRE est une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés d'électricité et du gaz au bénéfice des consommateurs. C'est la loi qui nous confère cette compétence et plus précisément le Code de l'énergie. Donc, nous avons vraiment trois missions principales. Premièrement, une mission de régulation des réseaux, réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité. Deuxièmement, une mission de régulation des marchés, qu'il s'agisse des marchés de détail sur lesquels voilà, vous et moi, nous achetons notre énergie, mais aussi sur les marchés de gros pour éviter les manipulations de marché, puisque l'énergie, aujourd'hui, c'est beaucoup financiarisé, donc on a des bourses de l'énergie, de la même manière qu'on a des bourses plus classiques dans d'autres secteurs. Enfin, on a une troisième mission très importante qui consiste à accompagner la transition énergétique. Et si je peux ajouter un mot aussi sur notre ADN, notre raison d'être, nous avons été créés sous l'impulsion des textes européens, car voilà, les États membres de l'Union européenne ont vraiment souhaité fonder un marché homogène de l'énergie à l'échelle de l'Union européenne. Donc c'est vraiment notre ADN. Notre mission au jour le jour, c'est de faire fonctionner ce marché européen de l'énergie. Notre institution est présidée par Emmanuel Wargon depuis l'été 2002. Elle a pris ses fonctions à un moment qui était assez difficile, hein, puisqu'on était vraiment, suite à la guerre en Ukraine, face à une situation au niveau des prix de l'énergie qui était vraiment du jamais vu, hein, au niveau de la Commission de régulation de l'énergie et des marchés. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, face à ce contexte extraordinaire, elle a poussé l'institution à se doter d'une feuille de route stratégique pour 2023-2024 pour nous donner vraiment, pour donner un cap à l'institution dans cette période très compliquée. Donc on a trois axes dans cette feuille de route stratégique qui est d'ailleurs publique, je le précise, on peut la trouver sur notre site internet. Donc premier axe, faire de la régulation des réseaux et de la transformation du système électrique un levier pour accélérer la transition énergétique. Assurer le bon fonctionnement des marchés de gros et de détail et contribuer à leurs réformes, puisqu'il y a évidemment des réformes en cours au niveau européen. Et enfin, porter l'expertise de la CRE auprès du grand public et dans les relations de coopération. Donc voilà, cette invitation à votre podcast tombe vraiment à point nommé.
Est-ce que les conflits récents, je pense à la guerre en Ukraine, aux événements au Moyen-Orient, ont-ils des conséquences sur vos missions ?
Alors oui, comme je l'ai un petit peu amorcé tout à l'heure, il est clair que déjà à l'été 2021, avec Gazprom qui commençait à envoyer et à livrer moins de gaz en Europe, les prix du gaz ont commencé à se tendre. Et évidemment, à partir de février 2022, avec le déclenchement de la guerre, là, on a vraiment constaté évidemment un impact énorme sur les prix du gaz et donc une augmentation des prix qui a touché également les prix de l'électricité. Donc à partir de là, il y a eu évidemment beaucoup de mesures qui ont été prises au niveau européen et au niveau français. Donc nous, en termes d'impact à la Commission de régulation de l'énergie, on a vraiment contribué à la mise en place des boucliers tarifaires, dont voilà, beaucoup de consommateurs français ont bénéficié. Et puis, on s'est évidemment aussi intéressé à tous les aspects de la sécurité d'approvisionnement, parce que ce gaz qui est venu à manquer, il a quand même fallu faire en sorte qu'on puisse passer l'hiver, selon l'expression qui est consacrée. Donc là, il y a eu tout un travail qui a été mené aussi, il faut le souligner, avec les autorités allemandes, puisque vous savez qu'on va dire la route traditionnelle du gaz classique par gazoduc, le gaz arrivé de Russie, puis ensuite passé par l'Allemagne, la France, enfin, en gros, bref, c'était plutôt un trajet d'est en ouest. Évidemment, ceci n'était plus possible et il a fallu qu'on puisse inverser les routes aussi pour que l'Allemagne puisse elle aussi bénéficier à nouveau d'un gaz en provenance d'autres régions. Donc nous, la force de la France, c'est qu'on a des terminaux méthaniers et que donc on peut aussi faire arriver du gaz par d'autres façades, façade atlantique, façade méditerranéenne, et ensuite voilà, le faire remonter et le renvoyer pour une nouvelle route qui serait plutôt ouest-est. Et donc ça a été rendu possible avec bien sûr notre homologue de la BNetzA, l'homologue de la Commission de régulation de l'énergie en Allemagne, les gestionnaires de réseaux concernés, qui ont vraiment pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'on ait une inversion des flux, parce que ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Et il y avait aussi des sujets techniques comme ceux de l'odorisation du gaz qui ont pu être réglés assez rapidement en un temps record. Donc on a travaillé sur tous ces aspects-là au niveau de cette première crise. Pour le conflit en Israël et en Palestine, bien sûr, il est trop tôt pour le dire. Peut-être une petite précision, Israël est un gros producteur de gaz. Et suite aux attaques du Hamas, l'exploitation dans certains champs gaziers a été stoppée. C'est le cas du champ de Tamar. Et en fait, ça a eu un impact sur les livraisons à l'Égypte. Parce que l'Égypte a vocation à devenir un gros hub gazier. Et donc, en fait, l'Égypte reçoit du gaz d'Israël, puis ensuite le liquéfie dans ses terminaux pour le réexporter vers d'autres routes. Donc, à voir. Si on voit dans les jours ou dans les semaines qui suivent un impact sur les cours, globaux, mondiaux du gaz. Pour le reste, alors ça vous paraîtra peut-être anecdotique, mais la Commission de régulation de l'énergie est très active dans une association qui s'appelle MedReg et qui regroupe vraiment tous les régulateurs de la région méditerranéenne, y compris nos collègues israéliens, palestiniens. Et le 10 octobre, j'organisais à Paris une réunion, mon groupe de travail des affaires institutionnelles, et malheureusement, les collègues israéliens et palestiniens n'ont pas pu faire le déplacement.
Vous venez de parler d'Israël et de l'Égypte avec la livraison de gaz. Que pouvez-vous nous dire au niveau des alliances pour les pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient sur le plan énergétique?
Alors, j'ai déjà un petit peu amorcé avec cette association MedReg dont j'ai parlé. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus parce que cette association a été créée en 2007. La Commission de régulation de l'énergie est un membre fondateur. Cette association, elle est soutenue financièrement par l'Union européenne. Elle regroupe aujourd'hui tous les régulateurs du pourtour méditerranéen. Ce n'était pas le cas évidemment en 2007. Et en fait, cette association, elle a pour vocation de créer un marché euro-méditerranéen de l'énergie. C'est aussi pour ça que l'Union européenne nous finance. Donc c'est vrai que c'est une association qui est montée en puissance. On discute évidemment beaucoup au sein de cette association des interconnexions, donc ces câbles qui permettent d'échanger de l'électricité ou du gaz. On discute évidemment de l'introduction des énergies renouvelables, de la protection du consommateur et puis de la gouvernance. Donc aujourd'hui, tout le bassin est représenté. Certains régulateurs ne sont pas encore créés, sont sur le point d'être créés et on les soutient aussi. C'est le cas notamment du régulateur libanais. Il existe dans la loi, mais pas encore dans les faits. Donc au sein de l'association, on cherche à les aider. Côté du gaz, plus spécifiquement, je peux vous parler d'une autre alliance qui est le Forum méditerranéen pour le gaz. Donc, qui est le forum, en anglais, c'est l'East Mediterranean Gas Forum. Donc, c'est le forum de la Méditerranée orientale. Donc, au départ, ça, c'est vraiment une organisation, une alliance étatique, où siègent l'Égypte, Chypre, la Grèce, Israël, l'Italie, la Jordanie, la Palestine. Et nous, la France, on est, les derniers arrivés. On a été invités par l'Égypte à rejoindre cette alliance. Et donc, vous avez une déclinaison au niveau des régulateurs de cette EMGF, comme on l'appelle. Et donc, on est aussi actif au sein de ces travaux-là. L'idée vraiment derrière cette alliance-là, c'est que l'Égypte cherche vraiment, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, à devenir un hub régional. Et évidemment, là aussi, la Commission européenne regarde ça de près, elle est observatrice, parce qu'à un moment où il faut diversifier les sources d'approvisionnement en gaz, évidemment, avec les ressources qui sont présentes en Méditerranée, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse aussi les États-Unis, qui sont d'ailleurs aussi observateurs à l'EMGF. Donc ça, on va dire, c'est pour les alliances multi, mais on a aussi d'autres alliances. Donc pour les identifier, je vais peut-être vous citer quelques projets énergétique, comme ça, si on a les projets quelque part on a aussi un petit peu les alliances derrière. Alors, par exemple, on a actuellement, donc ça, c'est un projet qui vient d'être décidé, la création d'une interconnexion entre la Tunisie et l'Italie via la Sicile. Donc, évidemment, on imagine bien que les liens entre la Tunisie et l'Italie vont être grandement renforcés. Il faut savoir que cette interconnexion, ce ne sera que la électrique, ce ne sera que la deuxième interconnexion finalement entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, puisque la seule, jusqu'à présent, la seule interconnexion qui existe, c'est celle qui relie le Maroc et l'Espagne. C'était jusqu'à présent, on va dire, la seule ligne. Alors, je peux vous dire aussi, pour revenir à l'Italie, peut-être une influence aussi assez importante dans les Balkans, puisque l'Italie est interconnectée, donc câble sous-marin pour l'électricité, avec le Monténégro. Et puis, il y a également aussi du gaz qui passe par les Balkans à destination de l'Italie. Et c'est clair qu'on voit vraiment les Italiens très présents sur cette région-là. Le régulateur italien a notamment été à l'initiative de la création de la Balkan School of Regulation, une création un petit peu académique autour de la régulation. C'est important parce que souvent, il peut y avoir du déficit de formation en matière de régulation. Et donc, les Italiens sont à l'initiative de cette école.
Et en quoi une entité comme la CRE participe-t-elle à la transition énergétique ?
Alors, on participe vraiment à vraiment plein de niveaux, c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment la transformation des réseaux électriques, on accompagne la décroissance de la consommation de gaz, on encourage la flexibilité, on favorise la sobriété, évidemment, on encourage le déploiement des énergies renouvelables, y compris donc gaz et électricité avec le biométhane. Mais moi, je voudrais vous prendre un exemple qui regroupe un petit peu tout ça, c'est celui de la transition énergétique dans les îles, puisque voilà, on est aujourd'hui en rencontre stratégique de la Méditerranée, et bon, comme vous le savez, il y a beaucoup d'îles en Méditerranée. Donc c'est l'exemple voilà, que j'ai choisi pour illustrer le propos. Le point de départ sur donc, ces territoires insulaires, c'est vraiment un mix énergétique qui est très carboné. Donc, ça veut dire que pour produire de l'électricité, on va avoir des centrales au charbon, au fioul, au gaz. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire vraiment sur toute la zone méditerranée, mais même au-delà. Donc, ça pose vraiment deux problèmes, un coût financier et un coût environnemental. Alors, le coût financier, je dirais, nous, on va dire, pour les consommateurs français qui vivent dans les îles, on ne va pas trop le ressentir parce qu'en France, on applique un principe de péréquation tarifaire qui fait que finalement, à consommation égale, où qu'on se situe sur le territoire, métropolitain ou non, on va payer la même chose. Mais en revanche, ce sont les finances publiques qui vont vraiment compenser les coûts de l'énergie beaucoup plus importants sur ces territoires. Donc sur les territoires insulaires, on a vraiment un enjeu, si vous voulez, pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, introduire peut-être aussi des installations pour le stockage. On a un enjeu aussi de convertir certaines centrales à la biomasse. Et en fait, tout ce travail qu'on fait à la Commission de régulation de l'énergie sur nos propres îles, on le partage aussi à l'échelle européenne avec nos collègues grecs, beaucoup, italiens, espagnols, portugais. Voilà, tout le monde est très actif pour essayer de faire avancer ce sujet de la transition énergétique dans les îles. Il y a d'ailleurs une initiative européenne qui s'appelle Clean Energy for EU Island, qui émet aussi des recommandations sur ce thème.
Je vous remercie pour ces éclairages. Un mot de la fin ?
Oui, alors le mot de la fin, ce serait peut-être d'inciter tous ceux qui en ont la possibilité d'avoir le réflexe de coopération internationale, de coopération méditerranéenne. Je vais prendre un exemple personnel, disons. Donc en 2021 a été signé un grand traité entre la France et l'Italie, qu'on appelle le traité du Quirinale. C'est, on va dire, l'équivalent du traité de l'Élysée à la relation franco-allemande. Donc, ce n'est pas tous les jours que les chefs d'État signent des grands traités comme ça pour renforcer la coopération. Et l'idée de ce traité, c'est vraiment de bâtir un réflexe franco-italien. Donc, nous, à la Commission de régulation de l'énergie, un traité international de cette envergure, évidemment, on l'a lu, on l'a étudié, on a vu qu'il y avait des dispositions qui concernaient l'énergie. Et on a cherché à décliner à notre niveau ce qu'on pouvait faire pour avoir ce réflexe franco-italien. Et donc, on a proposé à notre homologue de l'ARERA, Toute une série de coopérations renforcées pour vraiment décliner ce réflexe franco-italien. Et je vous donne donc un exemple en particulier. Notre précédent président, le Jean-François Carenco, avait créé en 2017 le comité de prospective qui est composé de personnalités, d'acteurs majeurs du secteur de l'énergie pour s'interroger sur les perspectives du secteur énergétique. On va dire vraiment un groupe de réflexion qui se réunit tous les ans avec différents thèmes. Et là, nous, on a vraiment fait une invitation permanente pour nos homologues italiens à venir participer à ces travaux. Et donc ça, vraiment, c'est vraiment un réflexe, je trouve, à développer d'ailleurs avec ou sans grand traité, mais cette coopération entre experts et finalement une coopération interpersonnelle. Je crois que c'est vraiment ça qui crée, in fine, des liens plus forts, plus solides entre les nations.
Merci beaucoup. C'était la boussole stratégique sur l'énergie avec Anne-Lise Théani, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, X et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.